Peu importe la distance, peu importe le parcours, peu importe les chances. Terry croyait en l'existence d'un monde sans cancer, quoi qu'il arrive. Joignez-vous à nous le dimanche 15 septembre et collectez des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer et ainsi changer des vies, dans le cadre de la 44e édition de la course Terry Fox. Visitez le site terryfox.org pour vous inscrire dès maintenant.
Septembre, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. Depuis le printemps dernier, une hausse du nombre de patients en attente d'une place en CHSLD restant à l'hôpital a été signalée, c'est selon la presse. Certains patientent plutôt pour obtenir une place en centre de réadaptation, en ressources intermédiaires ou encore en soutien à domicile. Pour les CU3S du centre-sud de l'île de Montréal et du nord de l'île de Montréal, un lit sur quatre était occupé par ces patients en attente en date du 30 août, alors que la cible du gouvernement et d'un lit sur 12. Une sombre affaire ici, l'agresseur sexuel d'une des personnes les plus vulnérables de la société prend le chemin de la détention pour 3 ans. Jonathan Aubé, 37 ans, a reçu sa peine hier au palais de justice de Laval. L'ancien préposé aux bénéficiaires avait été surpris par une collègue alors qu'il agressait une aînée de 66 ans avec une lourde déficience intellectuelle au CHSLD des Moulins de Terrebonne en mai 2022. Aubé a plaidé coupable en mars dernier, ce qui a facilité les procédures selon la procureure du DPCP, Brenda Ducado.
Ça évite à tous les témoins d'avoir à se présenter, à rendre des témoignages qui, on va se le dire, sont difficiles, très émotifs. Monsieur a été pris en flagrant délit par un membre du personnel qui a été très bouleversé.
Moins de 24 heures après la fin de son entente avec les libéraux, le chef du NPD semblait déjà hier en campagne électorale à Toronto pour commenter sa décision. John Mensing n'a pas ménagé ses adversaires. Annie Guillemette.
Le chef néo-démocrate a rapidement affirmé que Justin Trudeau manquait carrément de courage.
C'était vraiment clair pour nous que Justin Trudeau et les libéraux, il était trop faible pour faire face aux grandes entreprises qui exploitent les gens.
Mais la cible de Jack Mitzing, c'est le chef conservateur Pierre Poilievre. Il accuse de vouloir faire de la politique sur le dos des gens ordinaires et des familles en déconstruisant les programmes d'aide de toutes sortes.
Poilievre veut qu'on se divise. Une bataille nous attend.
La bataille, c'est naturellement la prochaine élection qui pourrait être déclenchée à n'importe quel moment. Jack Mitzing assure toutefois qu'il va analyser chacun des votes à la Chambre des communes et qu'il ne fera pas tomber le gouvernement sans raison. Mais il se présente déjà comme le candidat au poste de premier ministre.
Je n'ai pas peur de déclencher une élection.
Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Au sport, football canadien, les Alouettes qui sont tout feu, tout flamme affrontent les Lions de la Colombie-Britannique ce soir au stade de Percival Monson. Jérémy Filosa.
Nul besoin de le répéter, les Alouettes connaissent toute une saison, encore une fois cette année, et les partisans leur remettront la monnaie de leur pièce ce soir, alors que le club devrait jouer devant seulement sa deuxième salle comble depuis l'agrandissement du stade Percival Monson. Le carrière Cody Fajardo s'en réjouit.
The louder and more rowdy our fans are, the happier I am.
Malheureusement, les Alouettes devront se débrouiller sans le receveur de passe étoile Austin Mack, qui s'est blessé à l'entraînement cette semaine. Les Alouettes auront aussi une autre source de motivation. Le quart Davis Alexander a perdu son père la semaine dernière et comme l'explique Marc-Antoine Decoy, l'équipe tentera de tout faire pour lui offrir cette victoire.
C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, puis à nous de l'honorer là-dedans, c'est de jouer une mauvaise belle game de football.
C'est aussi le grand retour à Montréal de William Stanback qui connaît une belle saison avec les Lions un an après avoir quitté Montréal. Notre émission d'avant-match débutera sur le coup de 18h30. Jérémy Filosa, Cogeco Nouvelles.
Et à Laval, la police enquête ce matin sur un important vol de vêtements pour enfants. Les autorités sont intervenues en début de nuit dans une boutique située sur le boulevard Daniel Johnson dans Chaumédé. Les suspects sont entrés via un local adjacent. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Aujourd'hui, c'est généralement ensoleillé, maximum 24 degrés, 29 avec le facteur humidex. En soirée, quelques nuages, minimum 14. Du soleil pour samedi, des nuages pour l'après-midi, 40% de risque d'averse, maximum 18. Et alternant soleil et nuages pour dimanche, maximum 15.
Météo, fréquence bleue.
Le Radio Réveil, une présentation du groupe automobile Préchette-Thibault. Passez nous voir dans l'une de nos concessions. Thibault GM, Montmagny, La Pocatière, Préchette Ford, Montmagny Mazda et le centre de véhicules d'occasion Préchette-Thibault.
journée. Radio Réveil.
Gérer vos cartes de débit et de crédit en ligne, c'est simple. Avec nos services en ligne et mobile, vous pouvez déclarer et suspendre une carte perdue, volée ou non reçue, où que vous soyez, en quelques clics seulement. Vous pouvez aussi remplacer une carte endommagée en tout temps. Pour garder le plein contrôle de vos finances en ligne, rendez-vous sur Accéder ou téléchargez notre appli Service mobile Desjardins.
Elle est devenue hier la nouvelle super ministre du gouvernement Legault.
Oui, ministre de l'économie, de l'énergie, de la métropole. Écoute, on le dit, puis j'ai le vertige pour elle, un petit peu. On me dit qu'elle est très calme, très sereine, zen.
C'est l'impression qu'elle dégage, hein? De toute façon, là, dans l'immigration, elle était en contrôle, je dirais.
Absolument, mais tu sais, là, la marche est tellement haute. Mais ce qu'on me dit, c'est que dès mardi soir, le premier ministre, quand il a su que le premier ministre voulait lui parler, évidemment, il a compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais les gens autour d'elle ont dit... Elle reste calme, en contrôle. Puis tu l'as dit, on l'a vu hier et lors de la sermentation, aucunement dépassée, aucunement intimidée. Puis ce qu'on me raconte, c'est que tout de suite après la cérémonie publique qu'on a vue, elle a récupéré les fameux cartables de briefing qu'on appelle. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà eu. C'est gros, c'est énorme, c'est beaucoup de lecture. Pardon, est embarqué dans la voiture vers Montréal. Pour lire tout ça, son personnel, chef de cabinet, directeur des communications, qui la suivent aussi, vont rencontrer les fonctionnaires toute la journée, toute la fin de semaine. Bref, elle va tout faire pour être prête pour écouter mardi matin. Et j'insiste sur le terme « écouter » parce que ce à quoi on va assister quand on parle du début de l'étude du projet de loi, c'est ce qu'on appelle des consultations particulières. Pour les gens qui sont moins familiers que le processus parlementaire, il y a un projet de loi qui a été déposé au printemps. Et là, il y a plein de groupes qui ont été invités à réagir ou qui se sont manifestés pour réagir. Ils ont lu le projet de loi. Et là, ils vont venir en consultation particulière dire à la ministre, dire à ses fonctionnaires, aux autres parlementaires, ce qu'ils pensent, s'il y a des éléments qu'ils voudraient changer, etc., etc. Et ensuite, il y a des périodes d'échange où la ministre peut leur poser des questions, essayer de mieux comprendre leur position. Donc, par exemple, mardi, là, ça va commencer avec Hydro-Québec, qui vont être les premiers à venir se faire entendre. Énergir, HEC Montréal, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, l'Association des consommateurs industriels, etc., etc., jusqu'au 19 septembre. Donc, elle va être en mode, écoute, est-ce que la question à savoir, est-ce qu'on aurait pu reporter? La réponse, c'est oui. Ben oui, on aurait pu reporter pour...
Jonathan, c'est ce que les oppositions auraient souhaité. On dit, regarde, mettons le pied sur le frein, on va prendre un moment pour décanter, puis voyons voir si, maintenant que M. Fitzgibbon est parti, est-ce que c'est le meilleur projet de loi à déposer?
Voilà. Et ta façon de l'amener m'aide à exprimer mon point, c'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu le reporter? La réponse, c'est oui. Ça aurait aidé la ministre. Est-ce qu'on aurait dû le reporter? Ça, je suis pas certain. Parce que ça aurait aussi aidé les oppositions. Parce que tu dis, les oppositions, disons, on devrait reporter ça et tout ça. Mais tu sais, des fois, les oppositions vont demander quelque chose avec insistance. Mm. Puis quand ils l'obtiennent, ils vont l'instrumentaliser, ils vont le dénoncer. Fait que là, imagine, là, les oppositions, Marois Risky, qui est excellente, qui dit, il faut reporter ça. Et là, le gouvernement dit, on va suspendre l'étude, on va attendre. Et là, les oppositions disent, regardez, là. Le gouvernement ne sait plus ce qu'il fait. Il est en déroute. Son projet de loi le plus important est installé sur la glace.
T'es pogné des deux bases, tes écoutes.
Bien, c'est ça. Donc, mon impression, c'est que ils vont faire les consultations particulières, puis peut-être prendre plus de temps ensuite pour amener des amendements, procéder à l'étude article par article. Bref, que la ministre ait le temps de s'approprier les dossiers. C'est un défi qui est colossal. Mais je pense qu'on a la bonne personne au bon moment. Un défi de communication, de vulgarisation. Il y a une discussion publique collective à venir. Et on sait que c'est une ministre qui a l'appui du premier ministre qui va, d'une certaine manière, avoir les coups des franges. Sauf que je voulais aborder avec toi,
ouais.
C'est que là, on a un PM qui dit qu'il va s'impliquer davantage dans le dossier d'Hydro-Québec. Ça, c'est la phrase qui m'a fait le plus rire de la semaine. Je dois te le dire. Parce que le vrai boss d'Hydro-Québec, c'est toujours le premier ministre. C'est toujours le premier ministre.
C'est traditionnel, ça, je crois.
Ben oui, je me souviens, moi, à l'époque où je travaillais pour M. Charrette, Thierry Vandal, quand il y avait un problème, là, il se barrerait pas, il appelait directement le premier ministre. Puis ça a été comme ça avec les autres premiers ministres. Et malgré le poids de Pierre Fitzgibbon, c'était comme ça aussi avec Pierre Fitzgibbon. Donc, le PM est toujours le vrai boss d'Hydro. Mais le défi de la ministre, dans ce cas-ci de Christine Fréchette, mais de tout ministre qui devient responsable d'Hydro-Québec, c'est un peu d'éviter d'être juste une espèce de façade ou un pantin ou une marionnette, tu sais, de face à Hydro-Québec et face au premier ministre. Donc, t'es conscient, c'est qui le boss, mais ton objectif, c'est d'avoir l'oreille de ton premier ministre, de faire en sorte que quand, par exemple, Michael Sabia appelle le PM pour imposer ses volontés puis lui dire, ben voici comment on pense que ça devrait marcher, ben que le PM, il a le goût de te consulter, de t'entendre, de savoir ce que sa ministre va penser. Donc, je pense qu'elle a bien réussi à le faire dans le dossier de l'immigration, c'est-à-dire à moduler le message du premier ministre, à le contrer, même, j'ai envie de dire, à certains égards. Reste à voir si elle va pouvoir le faire pour les dossiers d'énergie aussi.
Mais Jonathan, prends une seconde pour expliquer aux gens qui nous écoutent, là, pourquoi est-ce que la relation entre le premier ministre, qu'importe de quel parti, et la personne qui dirige Hydro-Québec est à ce point, je dirais, importante? Pourquoi est-ce que pourquoi c'est le vrai boss, c'est le PM?
Parce qu'Hydro-Québec, c'est nous. Si j'avais tout le résumé, c'est plus simple expression. Notre grande fierté, notre bébé maître chez nous, c'est Hydro-Québec, qui est aussi une vache à lait exceptionnelle pour le gouvernement. C'est des orientations qui sont tellement, tellement, tellement stratégiques que tu ne peux pas faire autrement que d'impliquer le premier ministre. Parce que le ministre titulaire d'Hydro-Québec qui veut faire des changements à Hydro-Québec va se sentir obligé de demander à son premier ministre. Puis évidemment, bon, des fois, tu as des changements qui, de toute façon, doivent passer par le Conseil des ministres. Mais le boss d'Hydro-Québec, lui aussi, il sait à quel point c'est important ce qu'il fait, les dossiers, tout ça. Donc, le réflexe devient assez naturel de dire, bien, s'il y a quelque chose qui marche pas, ou juste si ça me tente de parler davantage au premier ministre qu'à un ministre, ben je vais le faire.
OK. Un mot sur Jean-François Roberge, lui qui va ajouter l'immigration, disons, à son portefeuille de responsabilité.
Ben oui, pauvre Jean-François Roberge, hein, il est un peu dans l'ombre. Je dis pas ça pour ça, mais je dis ça dans le sens que quand tu as une belle promotion comme ça, tu voudrais que les gens en parlent et tout ça. Il est un petit peu dans l'ombre de Christine Fréchette, mais il reste qu'effectivement, c'est une belle promotion, une marque de confiance, parce que lui, bon, avec le nouveau Conseil des ministres, c'est un peu considéré comme une démotion, hein, le fait de perdre l'éducation, mais il a bien fait aux institutions démocratiques, relations avec le fédéral, protection du français, et je pense que c'est un ajout logique, parce qu'il a déjà été impliqué, hein, de par ses relations avec le fédéral dans le dossier de Roxham, les visas mexicains, demandeurs d'asile. Donc, ils vont pouvoir bien intégrer l'ensemble des dossiers d'immigration, d'autant plus qu'on les associe tellement à la protection du français. Et c'était lui qui était responsable de ça. Ceci dit, rapidement, deux risques. Ben, premièrement, il y a celui de souffrir de la comparaison avec Christine Fréchette, qui a été tellement bonne à l'immigration. C'est un ministère à clientèle. Et lorsque tes clientèles sont entichées du ministre qui quitte... Bien là, tu as comme un petit défi supplémentaire, là. Et le nationalisme, on le voit comme un avantage, mais justement, Christine Fréchette pesait bien sur... utilisait bien ces leviers-là. Faudra éviter que Jean-François Roberge s'emporte trop, puis que l'on vienne lui accoler les étiquettes,
oui, parce
d'intolérance
que,
et tout ça.
Parce que ça demeure explosif quand même, délicat, voilà. Le dossier de l'immigration. Voilà. OK, tu veux revenir sur ce que j'ai dit dans mon tour d'horizon de l'actualité à 6 heures?
Oui, je voulais parler d'autres choses, mais le sujet dont je voulais parler, juste le fait de ne pas t'en parler aujourd'hui, ça va renforcer mon point lundi. Je fais exprès pour être flou.
Parfait.
Mais tu comprendras, les auditeurs comprendront lundi. Mais tu parlais de la nouvelle très inquiétante de la directive donnée au cégep aux universités de resserrer les dépenses. Ça amène au report, à l'annulation d'appels d'offres, même des directives à l'effet que s'il y a des toilettes qui brisent, vous les remplacez pas, puis... J'ai envie de dire, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est inquiétant, il faut en parler, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas la dernière qu'on va avoir comme ça. Parce qu'avec le déficit de 11 milliards, la révision de programme, les restrictions vont venir en santé, en transport et tout ça, et on peut les critiquer à la pièce, s'en inquiéter, c'est bien correct, c'est normal. Toi, tu parlais d'une attention qui est parfois passagère, hein, ces questions-là. On en parle et tout ça. Moi, l'expression que j'utilise souvent, c'est notre indignation à géométrie variable. On s'indigne beaucoup, beaucoup pour quelque chose, puis 24 heures après, on pense à d'autres choses. Mais à la lumière de ce que tu disais, j'ai aussi envie de te parler de ce que j'appelle, moi, la société en silo. C'est-à-dire que notre vision, elle est très en silo des enjeux de la société.
C'est vrai.
On veut investir pour maintenir des infrastructures vieillissantes, les mettre à niveau. Parfait. Mais on veut aussi développer des nouvelles infrastructures, des métros, des tramways, des routes, des hôpitaux. On veut mieux payer nos employés qui jouent un rôle tellement important. Les infirmières, les profs, les préposés aux bénéficiaires, c'est important. Hydro-Québec, on veut entretenir notre réseau, mais on veut aussi le développer, augmenter notre capacité. Mais d'un autre côté, on veut aussi payer moins d'impôts, puis payer moins de taxes, puis on veut éviter de trop s'endetter. Et c'est là que ça devient impossible. Tu sais, là, je te parle du Québec, mais on peut parler d'Ottawa aussi. Pierre Poilievre qui dit « les dettes épouvantables, les déficits épouvantables, moi, je vais régler ça. » OK, mais quand tu lui demandes par où il va commencer, bien là, tu n'as pas de réponse à ces questions-là.
C'est une bonne métaphore, la vision en silo. Tu sais, ça rejoint ce que j'ai dit, la vision avec la flashlight. aujourd'hui, on éclaire un problème, demain, on en éclaire un autre, mais c'est comme si on n'avait pas de vue d'ensemble. Et moi, ça m'inquiète. T'sais, tantôt, c'était plus le citoyen qui parlait que le journaliste. T'sais. Le journaliste dirait la CAQ devrait faire plus. Oui. Tout. Bon, c'est correct, on peut toujours dire ça. Sauf que quand tu regardes le portrait d'ensemble, les services publics, les infrastructures, tout ça tient de la broche. Puis j'aimerais ça, puis j'ai pas la réponse.